Vous êtes bien à l'écoute de Radio Galère sur le 88.4 de la bande FM, sur le canal 8C en DAB+, et sur www.radiogalère.org. Cette émission qui s'appelle Tirons la chasse va... qui commence ce dimanche à 11h, finira à 13h. Elle sera rediffusée dès mardi à partir de 9h et ensuite disponible sur le site de la radio, évidemment. Aujourd'hui, on va faire un truc un peu éclectique parce qu'on attendait une intervention qui, sans doute, qui ne pourra pas intervenir aujourd'hui, c'est le cas de le dire. Une intervention des conseils de citoyens 15-16. Eh ben, il va falloir en faire son deuil. Ça sera pour une autre fois. Et nos amis avaient besoin d'un peu plus de temps pour la préparer. Donc, on écoute une chanson qu'on a déjà écoutée la semaine dernière, s'appelle Les Dormantes, de Zao de Sagazan. Vas-y.
L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu aux plus sensibles par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui, c'est eux, que ça ne sera jamais mieux, l'amour qui nous rendra peureux, même des plus belles histoires à deux. Comment savoir que t'y es alors que l'eau est bleue et que les oiseaux se font rares? Tout se passe tout doucement pour arriver plus facilement au versant noir et isolé qui s'y engage va certainement dévaler. L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu aux plus sensibles par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux. Oh oui, l'amour. Ces gens-là sont du genre très beau parleur, la guicheur, l'allumeur, le séducteur. T'auras beau être en train de chialer depuis des heures, monsieur te prêtera des erreurs, lui qui n'en fait jamais d'ailleurs. Tout se passe tout doucement dans ses murmures, le serpent, et après la colère, il vous jure que ça c'est l'amour, l'amour ça rend fou, il en est sûr. Oui, ça c'est l'amour, l'amour ça rend fou, il en est sûr. C'est l'amour, l'amour ça rend fou et j'en deviens sûr. L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu aux plus sensibles par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux. Passer silencieusement pour arriver finalement au pire des tableaux, au croupissant, la laissant éternellement belle au bois dormant, la laissant éternellement belle au bois dormant.
Eh ben disons, c'est pas gay, hein, c'est salopard d'égoïste égocentrique. Des pervers narcissiques que dénonce, si vous l'avez bien compris, Zao de Sagazan dans cette chanson qui s'appelle, je vous le rappelle, Les Dormantes. Hein, je vous le passe, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est du bon. Hein. Et maintenant, on retrouve tout de suite notre ami notre ami Camaridi, hein, qui est dans la manif et qu'on va écouter maintenant interviewer toutes sortes de gens, comme il sait si bien le faire. Ouais, non, en fait, c'est pas aujourd'hui, hein, c'était mardi dernier. Voilà, ben, on écoute tout ça.
Là, on fait partie du mouvement de la paix, et moi, je fais partie aussi d'une association de résistants et déportés. Ah, okay. Voilà. Comme à la fin de la guerre, on n'avait pas de sous dans les caisses, on a carrément fait les retraites et la sécu. Donc, le Conseil national de la résistance, il a pu faire des choses quand il n'y avait pas d'argent. Maintenant qu'il y a beaucoup d'argent, on ne peut plus rien faire. Donc, ce n'est pas normal. Donc, je défends les retraites, oui. Bah,
voilà, ça fait partie de ces gens-là qui sont avec vous, la même chose.
Oui, le mouvement de la paix, oui, c'est pour... Il y a un tas de slogans dessus qu'il faut tous lire, là. Oui, c'est...
Pas forcément.
Mais vous êtes là pourquoi, madame ?
Eh bien, je suis là parce que nous sommes le mouvement de la paix et nous avons toute notre place dans cette manifestation parce que la paix ne peut se construire qu'à travers la satisfaction des droits humains, des besoins sociaux. Donc la retraite fait partie de ces droits humains, le droit à la retraite.
Quel est votre point de vue sur les lois de cette retraite ?
Eh bien, nous trouvons que cette retraite est très injuste. Elle handicape notamment les femmes qui n'auront pas toutes leurs annuités, qui ont eu des carrières un peu hachées parce qu'elles ont dû s'arrêter, s'occuper des enfants. Alors les femmes sont les premières victimes de cette retraite. Après, vous pouvez interviewer nos amies féministes qui sont par là-bas, vers la Samaritaine, je crois.
Très bien.
Oui, ou alors vers l'église Saint-Féréol.
Viens voir le monsieur du PCF.
Puis, comment ? Oui, non, j'ai fini, je dis bonjour. Ah, okay. Voilà.
Ben, merci.
Voilà, merci. Hein, si vous paraissez sur c'est Radio Galère.
Oui, c'est Radio Galère.
D'accord,
ouais.
Très bien. Merci. Merci à vous de nous donner une voix aux pacifistes. Et depuis 2019, au niveau du monde de la paix nationale, nous, officiellement, nous participons aux manifestations sociales d'envergure.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Alors nous, on milite toujours avec le collectif Martigues Palestine, Ouest Étang de Berre. Et dans pas longtemps, c'est vrai qu'on va organiser des conférences avec Nature et Carta, qui sont des rabbins antisionistes. Donc ça, c'est un peu l'actualité. Mais aussi, non, pour parler de l'actualité récente...
Ça, c'est important, ce que vous dites.
Alors oui, nous, c'est important parce qu'on sait que l'antisémitisme, c'est le carburant du sionisme. Donc quand on a compris ça, on se doit de lutter contre l'antisémitisme pour ne pas tomber dans le piège. Parce que c'est important pour nous et faire une différence entre la religion du judaïsme qui, elle, est respectable, comme toutes les autres religions, et du sionisme qui est une idéologie politique et raciste. Donc voilà, on tient vraiment à faire cette différence-là dans notre combat et puis humainement, hein, dans les valeurs qu'on a reçu. Mais c'est vrai que l'actualité, pour parler de l'actualité, rien que pour le mois de janvier depuis le début de l'année, il y a eu 47 morts palestiniens qui ont été tués. Donc on a vu le raid israélien de Tsahal à Jénine. Et c'est vrai que ça nous touche. Et moi, j'aurais un seul message à passer, c'est peut-être de ne pas négliger la solidarité qu'on peut avoir avec la Palestine. Arrêtez de penser qu'individuellement, on ne peut rien faire. Chacun à notre niveau, on peut boycotter des produits, boycotter Puma, boycotter plein de tas de produits, et que notre force, elle est à la fois individuelle et à la fois une répercussion collective. Ça, il ne faut pas le négliger. C'est le minimum qu'on peut faire pour la solidarité palestinienne. Après, si on peut faire plus, tant mieux. Mais ne perdez pas espoir. Voilà, l'Algérie, elle a mis 130 ans. L'Afrique du Sud, elle a mis beaucoup de temps aussi. Et je pense que la Palestine, elle peut, les Palestiniens en tout cas, nous montrent un exemple de résistance. Et le petit truc qu'on peut faire, c'est boycotter. Voilà, c'est passer le message de boycott. C'est vraiment le minimum qu'il y a à faire. Et voilà, et vive la résistance palestinienne.
Rappelez-moi votre prénom et fonction.
Moi, c'est Adil à Istres et je suis référent d'une association qui s'appelle Quartier Libre à Istres et je milite avec le collectif Palestine de Martigues.
Merci Adil.
Merci Kamar et bonne continuation à Radio Galère.
Le Parti ouvrier. Bon voilà, alors donc nous on est on manifeste, mais on est un petit peu en
retrait.
En marge.
Pourquoi ?
En marche, parce que nous, on est un parti et que, en fait, les manifestations demandent au parti de se mettre un petit peu en marge, de ne pas manifester dans le flot. Voilà, donc on est un petit peu en marge, mais voilà, on fait notre...
Alors, quelles sont les propositions que vous exigez ?
Le retrait complet, complet. Sans aucune discussion, rien du tout.
Et vous croyez qu'ils vont accepter ?
Oui, moi j'y crois forcément. Vous voyez tout le monde qui est dehors, là ? Et puis, en fait, ça mobilise, ça cristallise un peu tout, là, en ce moment, tout ce que les gens ne veulent plus. Et en fait, ça se cristallise autour de cette réforme des retraites. Mais en fait, les gens, ils sont là aussi pour d'autres choses, hein. Voilà, parce qu'ils veulent plus de cette oligarchie là qui nous impose tout. Ils veulent aussi que la France puisse se défendre et puisse aussi voter, enfin être représentée, parce qu'on n'est plus représentée, voilà.
Que Elisabeth Borne me fait rappeler Margaret Thatcher.
Ah oui, bon, moi Margaret Thatcher, j'étais un peu gamine, moi, alors je sais pas trop, mais ouais, bah, c'était, ouais, peut-être, hein, peut-être. Bon, enfin bon, c'est des gens...
Avec ses lois sévères, avec ses...
Ah ouais, peut-être, hein, si vous voulez, j'ai pas trop suivi, j'étais un peu gamine et pas trop dans la politique, donc pourquoi pas, oui.
Est-ce que vous savez que Macron prévoit progressivement le report à 65 ans?
Ah oui, bah, il peut prévoir 70, 80 aussi. Hein, oui. Ah bah oui, plus. Si les gens ne s'opposent pas fermement, il ira, il s'en fout lui. Hein. Il n'a aucun scrupule. Ce que j'espère, c'est une mobilisation plusieurs jours d'affilée. Au bout de 4 ou 5 jours, tout pète.
Donc, paralyser le pays.
Voilà, il n'y a que ça.
C'est le seul moyen.
Ah, moi, je pense, oui, ouais. C'est le seul moyen. Moi, je crois à ça. Et peut-être qu'on y arrivera, oui. Moi, je pense que oui. Et ça va marcher, pas une manif toutes les semaines, non?
Hein, okay.
Voilà.
Bah, rappelez-moi votre prénom. Et,
Emmanuel.
Et fonction.
Alors, moi, fonction, c'est-à-dire dans le parti? Ah bah, je suis adhérente au parti.
C'est
horizontal, il n'y a pas de verticalité chez nous. Voilà.
Merci. J'espère qu'ils ont compris.
Voilà, j'espère qu'ils ont compris aussi.
Merci. Merci. Bonjour, vous êtes dans la manif ou non?
Oui.
Alors, expliquez-moi, vous travaillez?
J'ai travaillé. Pendant 10 ans, j'ai eu un accident, j'ai pas le droit à la retraite, j'ai 54 ans, je m'appelle Mohamed, je suis SDF, je vis dans la rue, ça fait 10 ans.
Alors expliquez-moi, vous avez travaillé où exactement? On retourne en arrière, allez.
J'ai travaillé en tant qu'agent de sécurité, dans plusieurs surfaces, Bonneveine, Carrefour Le Merlan. Et quand j'ai eu mon accident, je ne pouvais plus travailler. Après, je me suis disputé avec ma concubine. Je me suis retrouvé dans la rue. Jusqu'à maintenant, ça fait 10 ans, exactement. Et chaque fois que je demande pour avoir un petit studio, on me dit qu'il faut un garant, il faut des fiches de paie. Malheureusement, je vis au RSA. Voilà, ma vie, elle est comme ça. Ma vie, ce que je veux dire... C'est qu'en ce moment, je dors dans un foyer qui s'appelle Formin, à La Joliette. C'est Saint-Jean-de-Dieu. Ce foyer s'appelle Saint-Jean-de-Dieu. C'est à Formin. Je dors là-bas. Je demande des aides envers l'État. On vous dit chaque fois, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. J'ai mes papiers, je suis né ici, à Marseille.
Vous êtes Marseillais, vous êtes fier.
Je suis fier d'être Marseillais. Et je ne trouve pas normal... que la retraite à 64 ans, ce que je peux dire à M. Macron, vous n'êtes pas intelligent, vous ne pensez pas aux enfants, aux futures générations. Mon père, il a travaillé toute sa vie, il est décédé à 53 ans, il n'a pas eu sa retraite. Merci M. Macron.
Cette pancarte, c'est parce qu'avec le recul de l'âge de la retraite, on va devoir travailler avec des déambulateurs tout simplement.
Alors voilà. Vous êtes
On est le syndicat des navigants du groupe Air France.
Okay. Et qu'est-ce qui se passe exactement?
En fait, la réforme des retraites appliquée à notre caisse de retraite autonome fait qu'on va devoir partir avec des conditions différentes et qui ne sont inacceptables. Et pour assurer la sécurité dans les avions, ça n'est pas possible.
Et pourquoi vous êtes à l'écart ici?
On rejoint des collègues qui sont devant dans le cortège, tout simplement.
Et est-ce que c'est la première fois que vous manifestez ou...
Non, on était là la semaine dernière, on est à Paris également, ouais. on est partout.
Donc c'est plus à Paris que ça se
oui.
passe.
Oui.
Exact. C'est pour ça que j'étais voilà. la première fois que je vois comme ça.
Voilà.
Bon, écoutez, vous revendiquez quoi exactement?
Nous, on revendique le maintien de notre caisse de retraite autonome comme elle est actuellement.
Nous sommes les persécutés de tous les temps et de toutes les races. Toujours nous fûmes exploités par les tyrans et les rapaces. Mais nous ne voulons plus fléchir sous le joug qui courba nos pères, car nous voulons nous affranchir de ceux qui causent nos misères. Église, parlement, capitalisme, état, magistrature, patrons et gouvernants, libérons-nous de cette pourriture. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire, et dans un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire. Ouvriers ou bien paysans, travailleurs de la terre ou de l'usine, nous sommes dès nos jeunes ans réduits au labeur qui nous mine. D'un bout du monde à l'autre bout, c'est nous qui créons l'abondance, c'est nous tous qui produisons tout, et nous vivons dans l'indigence. Église, parlement, capitalisme, état, magistrature, patrons et gouvernants, libérons-nous de cette pourriture. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire, et dans un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire. L'État nous écrase d'impôts, il faut payer, ses juges s'afflicaillent. Et si nous protestons trop, au nom de l'ordre on nous mitraille. Les maîtres ont changé sans voix, c'est le jeu de la politique. Quels que soient ceux qui font les lois, c'est bien toujours la même clique. Église, parlement, capitalisme, état, magistrature, patrons et gouvernants, libérons-nous de cette pourriture. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire, et dans un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire. Pour défendre les intérêts des flibustiers de la grande industrie, on nous ordonne d'être prêts à mourir pour notre patrie. Nous ne possédons rien de rien, nous avons horreur de la guerre. Voleurs, défendez votre bien, ce n'est pas à nous de le faire. Église, parlement, capitalisme, état, magistrature, patrons et gouvernants, libérons-nous de cette pourriture. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire, et dans un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire. Déshérités, soyons amis, mettons un terme à nos tristes disputes. Debout, ne soyons plus soumis, organisons la grande lutte. aux endormeurs qui bercent la misère humaine. Clouons le bec aux imposteurs qui sèment entre nous la haine. Église, parlement, capitalisme, état, magistrature, patrons et gouvernants, libérons-nous de cette pourriture. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire, et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire. Partout sévit l'autorité des gouvernants, l'international jugule notre liberté, dont le souffle n'est plus qu'un râle. Leur assonné de réagir entouille la révolte gronde. Compagnons, sachons-nous unir contre tous les maîtres du monde. Église, parlement, capitalisme, état, magistrature, patrons et gouvernants, libérons-nous de cette pourriture. Pressant est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire, et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire.
Et oui, merci à Fauchondem de cette relecture extraordinaire de la chanson du chant de révolte de Sébastien Faure. On retourne à la manif en compagnie de Camar, c'est ce mardi.
On est en train de répondre à l'injonction qui est faite par le gouvernement de mettre en place une économie pour laquelle la majorité des gens n'ont pas voté, qu'ils ne veulent pas, et qui est mise en place déjà partout dans le monde avec force et fracas, et à laquelle il faut résister, parce qu'une autre économie est possible.
Vous travaillez toujours ?
Je travaille, sauf aujourd'hui, ouais. Je suis pas là par plaisir, hein. J'aurais aimé aller travailler, remplir ma mission pour la collectivité, mais je suis là parce que je pense que la collectivité, la nation, elle est menacée, et je pense qu'il peut sortir de cette colère quelque chose de constructif et de productif. On n'est pas juste là pour dire non, il y a autre chose qu'il faut faire.
Alors que pensez-vous de cette loi qui est sortie retraite à 64 ans, si c'est un peu plus après?
Comme j'ai marqué, hein, vous voyez, qu'est-ce qu'on va faire à travailler plus? Moi, mes deux parents, ils étaient au chômage à l'âge de la retraite. On va quoi, renforcer le chômage des seniors? C'est quoi le plan? Ou alors les mettre dans des travaux, des boulots de merde à temps partiel, c'est ça? Moi, j'en ai marre d'être dirigé par des cadres sup qui se rendent pas compte de ce que c'est que le travail, parce qu'eux, ils en profitent de toute façon. Le fric se barre pour l'actionnariat quand c'est pas pour l'évasion fiscale. Voilà, on paye les gens mieux, on renforce les services publics et on construit une économie qui nous permet de vivre bien et pas de nous enrichir le plus possible. Je demande pas à faire des voyages au bout du monde, hein. Je demande juste à vivre de façon saine.
Alors 60 ans, c'est l'une des phares mesures à...
Mais oui, regardez, la réforme de retraite, au départ, elle était voulue même par les partenaires sociaux. Ils ont joué sur l'âge, donc ça a bloqué. Pourquoi travailler plus? Pourquoi? J'ai la dernière grève, la dernière journée de manif, j'ai pas pu venir. J'ai regardé le président du Conseil d'orientation des retraites parler à la commission des finances de l'Assemblée nationale pendant 2h30, comme quoi tout arrive. Et bien, il a dit que c'était juste le niveau de vie relatif des retraités qui allait baisser. C'est-à-dire que demain, les retraités gagneront moins par rapport aux actifs. Il n'a pas dit que la misère allait gagner sur la France. Et donc on suit quelle injonction? On ne suit pas les injonctions du Conseil d'orientation des retraites, on suit la volonté des grands groupes financiers et d'un certain modèle économique de s'appliquer ici. D'ailleurs, ils n'arrêtent pas de le dire, le gouvernement, il faut faire comme les autres pays. Mais d'où on a vu que l'histoire de France, c'était de faire comme les autres pays? En fait, je ne comprends pas, quoi. Faire comme les autres pays, c'est un programme. À ce moment-là, on arrête les pays, on arrête les nations, on arrête le vote. On arrête le vote, ça ne sert à rien. On vote, on subit toujours leur économie. Une économie, demandez au peuple qui veut ça. Il veut pas, il n'y a pas de référendum, il n'y a plus de démocratie. Donc c'est pas grave, on en profite, là, on se réunit et on va plus loin. Ce gouvernement n'a pas de légitimité. Moi, je vous dis, monsieur, hein, une assemblée citoyenne On est tous capables les uns les autres de se parler au-delà des clivages politiques pour construire quelque chose de beaucoup plus efficace que ce qu'ils essayent de mettre en place.
Vous refusez tout prolongement de l'âge?
Bien sûr, je refuse tout prolongement de l'âge de départ. Et tous mes oncles, ils sont à la retraite, ça fait à peine une dizaine d'années. J'en ai un qui est mort, un qui est malade, un qui ne peut plus conduire. Le seul qui s'en sort, il était à EDF. On va où là? Et on nous dit on est irresponsables. Mais c'est eux qui sont irresponsables. Ils sont irresponsables et j'insiste aussi, ils sont incompétents. La macroéconomie, ils gèrent. Il n'y a pas de problème, ils ont fait les bonnes études, tous ces gens au pouvoir. Respect, moi je ne suis pas au niveau. Mais il y a d'autres choses pour conduire un pays que la macroéconomie, n'est-ce pas? Moi, je serais pour un gouvernement d'union nationale qui soit composé d'aucun membre de parti politique, quel qu'il soit, et pour qu'une assemblée citoyenne, voire des assemblées citoyennes, se compose sur la base d'un tirage de sort et de la concertation. On le voit bien, hein, l'Assemblée, ils n'arrivent pas à se parler, ils s'invectivent en permanence, et ça depuis trop longtemps, mais nous, au-delà des clivages politiques, enfin vous monsieur, est-ce que vous parlez seulement à ceux qui pensent tout comme vous ou est-ce qu'on parle à tout le monde? On essaye de dépasser, voyez? C'est ça l'histoire de France. Soit on continue à faire les couillons, soit on se rassemble comme les fois on s'est rassemblés face à un ennemi qui est très clair, l'ultralibéralisme financier, Elon Musk et compagnie, et on produit quelque chose et on montre le chemin à nos compatriotes, voire aux autres pays qui sont pas forcément... En reste, pour se battre. D'ailleurs, les journalistes étrangers, ils sont un peu plus d'accord pour qu'on défende notre monnaie sociale que les journalistes français. Ce qui est aussi la preuve que, franchement, la démocratie, elle se vide et ça, c'est très grave. Si la France se retire de l'Europe, il n'y a pas d'Europe sans un grand pays comme la France. Donc ça veut dire qu'on met fin à l'Union européenne. Est-ce que c'est souhaitable? Peut-être, vu ce que fait l'Union européenne et son baragouin, là encore, de pseudo-démocratie et son ultralibéralisme. Moi, je pense au contraire qu'il faut que les nations se rapprochent et l'Europe peut être une bonne chose, mais il faudrait qu'elle soit représentatrice des peuples, quoi. Ouais, bah, l'Europe...
C'est pas vraiment l'Europe qui attaque les autres pays, c'est l'Amérique. C'est voilà. Il faut sortir de l'OTAN. Il faut que les pays d'Europe sortent de l'OTAN parce que l'OTAN ne sert que les intérêts des Américains. Et cette guerre qui est en Ukraine aujourd'hui, c'est comme toutes les guerres qu'ils ont fait les Américains dans les autres pays au Moyen-Orient, ne sert que leurs intérêts, ne sert pas les pays européens. Et ça va finir par... Eux, les Américains, leur souhait, c'est de détruire l'Europe, justement, pour pouvoir après s'enrichir. Et faire tomber l'économie en Europe parce que leur économie à eux est en train de s'effondrer. Voilà, tout simplement. Je pense qu'il va falloir tout changer, remettre à plat le système qu'on a actuel, mais même dans tous les pays du monde, ça doit être comme ça. C'est-à-dire qu'il ne devrait plus avoir un gouvernement qu'on élu, il devrait y avoir un conseil des sages, et les personnes qui devraient être au gouvernement devraient être des gens qui connaissent leur métier, c'est-à-dire celui qui s'occupe des hôpitaux, tout ce qui est médical, doit être un professionnel médical. Celui qui s'occupe du bâtiment doit être un professionnel pour les logements, tout ça. Tous les ministres devraient être professionnels. Voilà, l'école devrait être quelqu'un qui a fait déjà ses preuves au niveau des écoles. Pas mettre des gens qui sortent comme ça, on ne sait pas de quelle école ils sortent. Ils ont fait l'ENA, ils ont fait ça, mais ils ne connaissent rien en vérité au problème du terrain. Il faudrait faire des conseils des sages, parce qu'une fois qu'ils sont élus, il faut pouvoir les contrôler, parce que si on voit qu'ils vont dans l'intérêt du peuple, pouvoir les destituer de leur travail. Parce qu'on les a désignés pour faire un travail, pas pour nous imposer leur diktat.
Bonjour.
Bonjour.
Vous avez une belle pancarte.
À l'initiative de ma mère.
Alors, est-ce que vous pouvez nous la lire?
Tu nous mets 64, on te remet 68.
Alors c'est un hommage à ta mère ou ta grand-mère?
À ma grand-mère, à ma mère. Effectivement, on manifeste ensemble.
Un magnifique hommage, madame. Vous travaillez encore ou...
Non, ça y est, je suis retraitée depuis peu.
Ouais, alors.
Mais j'ai pas connu mes 68, j'étais trop jeune.
Moi aussi.
Mais j'en ai quand même longtemps entendu parler, ça a bien changé.
Alors vous êtes descendue pour...
On vient d'Istre.
Hein.
Voilà, c'est notre deuxième présence ici pour cette réforme injuste.
Alors vous avez travaillé où ou vous travaillez où?
Je ne travaille plus, mais j'ai travaillé dans le privé, dans une petite entreprise d'une vingtaine de salariés, jusqu'à 62 ans, voilà. et c'est impossible de travailler plus. On est bien d'accord, quoi.
Que pensez-vous de ces lois qui viennent juste de...
Qui veulent nous faire passer en force.
S'ils ne sont pas passés.
Ouais, ça va passer, mais on est là, on est dans la rue. Et le 49-3, c'est nous, quoi. C'est pas eux, c'est nous. C'est nous qui allons nous battre pour que cette réforme ne passe pas. C'est injuste. C'est difficile de travailler au-delà de 62 ans. Vraiment. Moi, je pensais m'arrêter à 60. J'ai pris 2 ans. Mais si je devais, à ce jour, encore faire 2 ans de plus, je ne tiendrais pas. Et je me bats pour tous ceux qui vont devoir prendre 2 ans de plus, voire davantage.
Alors, votre fils est sorti. Vous avez quel âge ?
34 ans.
Vous travaillez toujours ?
Je travaille toujours, oui.
Vous travaillez où exactement ?
Alors moi, je travaille au CHU de Montpellier. Ouais. Et j'en ai profité pour venir manifester avec ma mère en posant une journée sur Marseille.
Et est-ce que vous êtes content de ce beau monde qu'il y a ?
Ah ben c'est magnifique. Ça... Non, mais c'est énorme. On ne se rend pas compte le monde qu'il y a. Il faudrait, ce qu'on disait, il faudrait un drone ou quelque chose comme ça pour voir, effectivement, ça remonte jusqu'à la major. C'est énorme. Et il y a tout type de population, d'âge. Ça fait une belle filiation de générations. Mais finalement, ils devraient se ravir de voir autant de monde dans la rue, justement, de se dire que les gens n'acceptent pas forcément tout facilement et qu'ils manifestent à leur manière. Et là, le nombre fait la force, j'ai l'impression.
Vous continuez encore à manifester si rien ne se fait en...
On continuera, hein. On continuera.
Tant qu'on descendra pourra. Dans la rue, hein. Jusqu'au bout, on descendra dans la rue. Il le faut, chacun doit se mobiliser.
Ben merci, je vous laisse.
Merci bien.
Quotidien, c'est ça.
Alors. Ah bonjour quotidien.
Hein, c'est quoi? Vous avez fait une exposition ou quoi exactement?
Je suis graphiste indé en fait, et je suis graphiste indé et je me suis amusé à faire des affiches parce que c'est mon métier, et je les ai mis sur mon site et je les vends là pour comme je dis, pour m'aider à payer ma retraite parce que j'ai fait une simulation. Je travaille depuis que j'ai 22 ans, 23 ans, j'ai commencé en 92 et donc ça fait plus de 30 ans. Et là, si je m'arrête en 62 ans, je vais toucher 850 euros de retraite. Donc ça fait un peu mal au cul quand même. C'est vraiment pas beaucoup, quoi. Voilà, les indépendants, on n'est pas les moins bien lotis. Il y a pire, hein. Il y a les femmes, il y a encore pire que moi, sûrement. Mais les indépendants, on prend vraiment cher, quoi. Non, pas cher, vous m'avez compris, quoi. Voilà, et donc c'était un petit clin d'œil. Et puis comme j'ai fait les visuels et...
Allez, bonjour. Bonjour, j'en veux une comme ça. Vous voulez celle-là ?
Ouais. Voilà, et après c'est en prix libre.
Tu s'entraides. Oui, toi, tu manifestes ?
Ah oui, bien sûr. Je milite depuis l'âge de 14 ans. Non, c'est pas ça du tout.
Après, sur mon site, je vais elles seront en couleur, donc après, vous pouvez les copier, les tirer en couleur.
Alors, vous avez une ici le roi. C'est qui le roi, là ? Le nouveau roi ?
Bah, c'est lui, quoi. C'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, pour moi, c'est voilà, il se comporte comme un roi, mais en plus, avec même pas l'élégance qu'avaient les rois. Les rois, au moins, ils étaient élevés avec des valeurs qu'on peut contester aujourd'hui, hein. Évidemment c'est un peu rétrograde, mais au moins ils avaient une certaine élégance, quoi, pour la plupart. Et lui, c'est vraiment, pour moi c'est un voyou, quoi. C'est un voyou qui se comporte comme un roi, c'est-à-dire qu'il n'écoute pas son peuple. Et voilà, j'espère qu'il va tomber, mais pas pour être remplacé par l'autre conne avec sa perruque blonde, là. Parce que si c'est pour avoir Le Pen à la place, c'est pas mieux, quoi. C'est les mêmes, sauf que c'est la version un peu, voilà, édulcoré, mais c'est la même chose, c'est des requins, l'un et l'autre, ils sont là pour fracasser tous les acquis, quoi.
Il faut pas nager là où ils sont, là.
Ah non, il faut pas nager où ils sont, là, parce que sinon vous faites... Squales, ouais. Ah ouais, c'est exactement ça, c'est des squales, vous l'avez bien dit, quoi.
Et je vois Borne.
Et Borne...
Bah,
elle est bornée. Non, Borne, en fait, c'est assez malin, c'est comme un casting. Dans un gouvernement, en fait, ils l'ont choisi, elle, parce qu'elle représente bien le côté institutrice un peu sévère, mère de famille, etc. Cato, un peu. Toi, là, elle a ce look. Dans un film, on la choisirait dans un casting parce qu'elle a ce côté un peu sévère. Alors qu'initialement, elle est socialiste, hein. Mais elle a vendu son âme au diable. Elle n'est plus du tout socialiste. Et elle a voulu se mettre bien pour sa retraite, parce qu'elle y arrive, elle a 62 ans. Donc elle a voulu se mettre bien en prenant ce poste de Premier ministre. Je pense qu'elle va bien gagner sa vie maintenant, elle aura une bonne retraite. Mais elle a vendu toutes ses convictions, quoi. C'était quelqu'un qui avait des convictions au départ.
Elle vous fait rappeler quelle femme ?
Thatcher. On est d'accord. Mais c'est pas exactement la même chose. Thatcher était plus dur que Borne. Borne, c'est une marionnette. Elle répète ce que lui dit Macron. Hein. Elle a, tout ce qu'elle dit, c'est ce qu'on lui demande de dire. Quoi. C'est pas ses convictions à elle. Alors que Thatcher, c'était vraiment ses convictions. Quoi. C'est autre chose.
Quand on voit ce monde, c'est que ça va pas vraiment, ça ne va pas.
Non, c'est clair. Ouais, j'espère que les gens vont pas lâcher. Là, je viens de lire sur un site d'information qu'il y a déjà une autre manif annoncée pour le 11 février. Il faut pas que les gens lâchent. Quoi. Genre, c'est... Ce qui se joue là, c'est vraiment grave, quoi. Donc il ne faut pas lâcher, il ne faut pas que ça déborde, il faut pas qu'il y ait de... C'est bon enfant, il y a des enfants. Voilà, pour l'instant, je ne vois pas de violence, il n'y a pas de problème. Et je pense qu'il n'y en aura pas. Ils aimeraient bien qu'il y en ait, parce que s'il y en a, ça leur permettrait de dire « Ah, vous avez vu, gna 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 et tout. » Mais je pense qu'on est assez intelligent pour ne pas tomber là-dedans, quoi.
On ne s'est pas présenté, vous ?
Non, je suis Vincent et graphiste indépendant.
Donc moi, c'est Radio Galère.
D'accord.
Exactement. Et ben, là, quand vous arrivez à vous plier comme ça, à vendre des photocopies.
J'ai 55 ans, je suis blanc, je pourrais être immigré et femme. Je suis un homme blanc. Je suis propriétaire de mon appart parce que mon père est décédé, j'ai pu acheter mon appart, donc avec un petit héritage. Donc il y a pire que moi. Mais par contre, c'est vrai que j'aurais une retraite de merde. J'aurais 850 € de retraite, donc c'est vraiment pas grand-chose. Et ouais, j'ai mis un peu mon honneur de côté de descendre, un peu faire la manche d'une certaine façon.
Ouais,
mais comme j'ai fait du théâtre de rue aussi dans une partie de ma vie, j'ai pas peur d'être dans la rue, ça me fait rire. Ça permet de discuter, je suis militant, donc voilà, ça me permet de parler avec des gens. Et d'entendre un peu ce que les gens disent. Alors des fois j'entends des discours un peu conspirationnistes, un peu qui craignent, qui m'emmerdent un peu, comme quoi voilà, c'est la faute des francs-maçons, c'est la faute de je sais pas quoi, mais ça c'est tout ça, c'est des conneries quoi. Non, la finance, on sait, elle gouverne le monde, mais on n'est pas obligé d'être gouverné par des cons, et nous malheureusement, l'offre politique en France actuellement, elle est pas bonne quoi. C'est ça qui craint, c'est qu'on n'a pas une bonne offre politique. Et les gens qui ont des choses intéressantes à dire, je pense à François Ruffin, par exemple, que je trouve qui est intéressant, malheureusement, on les met pas assez devant, quoi, tu vois. Ils sont... voilà, même à gauche, il y a des choses à se remettre en question, dans la façon de gouverner la gauche. Tu vois, voilà, j'ai des choses aussi un peu à dire sur eux. Je trouve que là, c'est un peu caricatural. Celui qui tient toute la gauche actuellement, c'est lui-même, il a des choses à... C'est pas terrible, sa façon de faire, quoi. Il faudrait des gens... plus, comment dire, plus dans l'époque d'aujourd'hui, quoi. Plus d'aujourd'hui, quoi. Et pas des Macron, quoi. Mais voilà, c'est un peu compliqué de discuter comme ça. En tout cas, bravo et je te laisse continuer ton reportage.
Juste, quel message vous lancez ? Parce que vous avez le courage d'exposer.
Ouais. J'ai envie de dire, il faut pas lâcher, quoi. Il faut pas avoir peur et ne pas lâcher. Et ne pas tomber dans la violence, l'humour. Moi, mes affiches, elles ont de l'humour dessus, j'espère. Quand je reprends l'affiche de Shining en mettant « Arrête Manu, fais pas le con », ou quand je détourne le slogan « C'est notre projet » par « C'est mon projet », j'essaie de mettre de l'humour, quoi. Et je pense que l'humour est la meilleure arme dans les moments comme ça. Il faut pas lâcher, quoi.
Merci beaucoup et bon courage.
Merci à toi.
À nous tous.
Je ne vois pas, je
Vous distribuez quoi exactement ?
Des tracts pour une assemblée générale cet après-midi à 15h au grand amphithéâtre de la Fac Saint-Charles. Pour surtout pour parler de la manif, de ce qui s'est fait pendant cette manif, de ce qu'on en a pensé et de est-ce qu'on veut se tenir en courant entre nous, s'il y a une autre manif ou s'il y a d'autres mouvements, essentiellement.
Vous faites partie de quel...
Moi je ne fais pas partie d'un groupe en particulier. En fait moi je suis essentiellement... C'est juste, moi j'ai vu qu'il y avait des gens qui tractaient, j'ai lu leurs tracts, ça m'a intéressé, j'aurais proposé de l'aide, ils m'ont dit oui.
Vous êtes étudiant ?
Non, je suis collégien moi.
Collégien, vous avez quel âge ?
14 ans.
14 ans. Et vous êtes conscient de ce qui se passe ?
Est-ce
que vos parents vous racontent des trucs sur la retraite ? Est-ce qu'ils sont inquiets pour vous aussi ?
Oui, beaucoup. C'est surtout en fait, je suis beaucoup dans une famille militante, du coup... Je suis un peu forcément ce qui se passe et ça m'intéresse un peu. Voilà.
Vous êtes inquiet ?
Inquiet.
Vous posez des questions ?
Surtout.
Sur votre avenir quand même.
C'est ça, c'est moi je me dis à quoi ça va ressembler quand je serai adulte quoi. Donc c'est tout en vrai. Je me dis que ça va juste pas ressembler à quoi ça ressemble en ce moment quoi.
Et pour vous, pour stopper ce régime, qu'est-ce qu'il faut faire ?
J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. C'est pour ça que notamment, moi, les âgés, ça m'intéresse. Parce que du coup, on peut voir comment les gens se disent, de comment eux, ils pensent qu'on peut faire pour inverser le régime.
Voilà. Alors, de toutes les manières, vous allez débattre ce soir sur ce qui se passe aujourd'hui.
Oui. Moi, je sais pas si je vais venir parce que je suis collégien. Et que...
L'appel, c'est ça.
Oui, l'appel, c'est ça.
Écoute, je vous laisse distribuer les...
Vous en voulez un ?
Le Front National, la jeunesse en mer ! Le Front National, la jeunesse en mer ! Le Front National, la jeunesse en mer ! Le Front National, la jeunesse en mer !
Je suis bien avec vous, les loulous, je suis content.
Nous, regardez pas. Rejoignez-nous.
À la politique, on s'attaque au gouvernement.
Pardon ?
À la manifestation,
oui.
Nous, les gilets jaunes, on parle pas de politique, on est le peuple. Et il n'y a pas... Parce qu'ils sont tous à mettre dans le même sac.
Pourquoi ? C'est des jeunes qui manifestent.
Non, parce qu'il a dit qu'on emmerde le Front National. On emmerde tout le monde.
On emmerde le Front National aussi parce que le Front National, c'est les spécialistes quand il s'agit de récupérer les mouvements sociaux de la jeunesse ou de les mouvements sociaux en général. C'est vraiment les spécialistes dans cet art-là. Il faut croire qu'ils sont avec le peuple, alors qu'en vérité, c'est complètement faux. Et voilà. Les gilets jaunes, ils se sont aussi battus pour une augmentation de leur salaire, une augmentation une baisse du prix de l'essence. Ils se sont battus pour cette cause-là et aujourd'hui, ils sont avec nous dans les retraites parce que ça touche tout le monde et ça fait partie de leur cause. Donc c'est super important d'être tous unis contre cette réforme. Voilà, donc c'est normal en fait qu'ils soient là pour moi.
Vous avez quel âge ?
16 ans.
16 ans ? Ouais. Vous faites partie de quel mouvement ?
Alors moi je suis au lycée Marcel Vert, je ne suis pas syndiquée, mais on s'est rapproché de la jeunesse communiste et de les forces lycéennes pour organiser notre blocus et pour organiser nos forces à Marcel Vert.
Et pour les retraites, qu'est-ce que vous allez dire ? Quel slogan vous lancez ?
Nous, il y a plusieurs slogans quand il s'agit de parler de retraite, il y a plusieurs slogans. Par exemple, le fait qu'on veuille pas de retraite pour les morts, parce que je trouve que c'est hyper important de rappeler qu'il y a des gens qui, à 64 ans, ne sont juste plus capables de travailler et qui ne profitent absolument pas de leur retraite, en fait. Faire un pas en arrière comme ça, c'est donner une retraite à des gens qui sont morts, en fait, presque.
Donc vous êtes là, vous êtes sortis pour défendre en quelque sorte vos parents aussi.
Bien sûr, on défend nos parents, nos professeurs, etc. Mais on protège, on est aussi là pour protéger notre avenir. Parce que cette réforme, elle va toucher tout le monde. Que ce soit les forces lycéennes d'aujourd'hui, les forces lycéennes de demain, les gens aujourd'hui qui vont avoir leur retraite ou qui l'ont déjà. Ça touche tout le monde. Donc c'est important de se mobiliser, quel que soit notre âge.
Alors je peux vous dire, permettez-moi de vous dire, vous êtes des jeunes révolutionnaires.
Moi je pense que la révolution dans la violence, c'est pas forcément une chose, c'est pas une chose bien dans le sens où la violence elle n'est pas toujours nécessaire. Mais c'est vrai que nous on veut révolutionner cet État, ce gouvernement, enfin voilà quoi.
Merci, rappelez-moi votre prénom. Et...
Moi c'est Lise, je suis à Marseille Vert, ouais.
Merci Lise, bon courage.
Restez bien derrière la banderole.
Déteste de la police.
Tout le monde déteste de la police. Tout le monde déteste la police.
Bonjour, moi je m'appelle Mathéo Drame. Je suis un président du conseil de ville lycéenne de Saint-Charles. Je présente une association et je suis engagé politiquement chez la France Insoumise.
Et vous êtes... Tout ce groupe, il vient d'où exactement ?
Il vient de plusieurs lycées de Marseille, donc c'est le lycée Saint-Charles qui a donné l'impulsion. Et après, on se rejoint tous pour aller manifester pour le droit à notre avenir, pour reprendre le droit sur notre avenir. Voilà. Mais en fait, ça part d'un même constat que la vie, elle est de plus en plus chère et de plus en plus difficile, que ce soit pour nos parents, parce que la vie, elle augmente, elle coûte plus cher. Pour les étudiants, avec la hausse de la précarité étudiante et le fait que d'enseigner, ça devient de plus en plus compliqué en France. Et cette réforme des retraites, en fait, c'est un poids en plus pour nous faire travailler jusqu'à des années. En fait, on a plus le droit à notre avenir. Et c'est pour ça qu'on revendique, c'est pour ça qu'on manifeste.
Où il va Macron avec ses lois ?
C'est un choix de société, il choisit les plus riches plutôt que la majorité de sa population. Il va vers l'oligarchie, il va vers du côté des plus riches, il va vers une société parfaitement inégale où les inégalités elles se creusent chaque jour.
Vous avez quel âge ?
Moi j'en ai 17.
Donc vous allez sortir, si rien ne se règle, vous allez sortir à chaque fois quand on vous fait appel à vous.
C'est déjà ce qu'on fait là en fait, oui.
Bon courage.
Merci. Merci.
On s'en fout, on veut faire bosser du tout, les retraites, on s'en fout.
Et ouais, comme je les comprends, ces lycéens qui veulent pas perdre leur vie et la gagner. Bah oui, parce que c'est un peu le fait de chacun. Merci à Camar pour cet excellent reportage.
La vie s'écoule, la vie s'enfuit, les jours défilent au pas de l'ennui, parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies, parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies, le travail tue, le travail paie, le temps s'achète au supermarché. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Les yeux faits pour l'amour d'aimer sont le reflet d'un monde d'objets, sans rêve et sans réalité. Aux images, nous sommes condamnés, sans rêve et sans réalité. Aux images, nous sommes condamnés, les fusillés, les affamés viennent vers nous du fond du passé. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Brûler repère de curés, ni de marchands, de policiers. Au vent qui sème la tempête, se récoltent les jours de fête. Au vent qui sème la tempête, se récoltent les jours de fête. Les fusils sur nous dirigés, contre les chefs vont se retourner. Plus de dirigeants, plus d'État, pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants, plus d'État, pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants, plus d'État pour profiter de nos combats.
Merci Raoul Vanengame pour cette excellente chanson et bravo à Jacques Marchais pour l'avoir chanté aussi bien dans l'émission Tirons la chasse sur le 88.4 en modulation de fréquence et le canal 8C en DB+, vous l'avez compris, c'est bel et bien Radio Galère. Alors au hasard des choses que je voudrais vous raconter, ça fait un moment que ça me travaille, et je vous en ai déjà parlé une fois, le bouquin Bleu de chauffe de Nano Rousseau, qui est né en 51, qui est un écrivain et réalisateur français, qui donc est incarcéré dès 18 ans, puis condamné à 6 ans de prison pour braquage, et qui va faire sa réinsertion, ça pourrait être un exemple de ce côté-là, avant de bénéficier d'une liberté conditionnelle, et qui va faire dans la plomberie. Bleu de chauffe, son bouquin le plus connu, c'est un peu autobiographique, puisque c'est un pompier chauffagiste à qui il arrive tout plein d'aventures absolument hallucinantes dans les quartiers du 9-3. Et il y a même, dans son bouquin, la rencontre avec l'écrivain Jean-Patrick Manchette, auquel il a confié un manuscrit, et qui l'aide, qui le critique, et qui le remet un peu en cause, et qui, avec raison, sur un certain nombre de points. Et ça fait, c'est dans le bouquin, par exemple. Hein. Alors, le bouquin, il finit vite. Hein. Il est assez terrible, mais je ne peux pas vous en parler parce que je ne sais même pas. Chez moi, c'est la panique complète. Là. Je ne sais plus où je mets les bouquins. Il doit être sous une pile quelque part. Et surtout, je voulais le rapprocher justement de Patrick Manchette, qui lui nous a quittés déjà en juin 1995, et qui lui était né en 1942, mais à Marseille par accident, puisque c'était la guerre, et qui a écrit, entre autres, Le Petit Bleu de la côte ouest. C'est une histoire de télégramme. C'est aussi le support de Trois hommes à abattre avec Delon notamment. Et c'est aussi celui qui avait fait l'affaire. Non, c'est pas l'affaire, je ne sais plus comment ça s'appelle. L'homme au boulet rouge et la position du tireur couché qui a été mis en image, comme beaucoup de bouquins d'ailleurs de Manchette, par Tardy. Et ce bouquin-là non plus. Hein, je les retrouve plus, donc j'en ai marre. S'il y a quelqu'un qui m'entend et qui a ces deux livres sous la main, qui me les apporte immédiatement et je lirai les passages qui me plaisent. Hein. Voilà, bien. Mais en fait, donc, force de chercher des trucs sur Internet, j'ai retrouvé du Victor Hugo, si je vous assure. Alors c'est un poème qu'il a écrit en septembre 1820, il n'est pas écrit en 1920, il est mort avant. En 1870, après la chute de Napoléon le Petit, il participe activement à la défense de la capitale assiégée par les Prussiens, mais pendant la Commune de Paris, il se trouve en fait à Bruxelles pour régler la succession de son fils. Il désapprouve avec vigueur la répression de la révolte perpétrée par les Versaillais et leur leader Adolphe Thiers, ce qui lui vaut d'être expulsé de Belgique vers le Luxembourg. Bon, c'est pas le pire des exils. Et avant, il avait été, je vous rappelle, en Angleterre pendant très longtemps sur l'île de Jersey ou de Guernesey, je ne sais plus. Bon, vous corrigez de vous-même. Vous n'avez qu'à chercher vos sources. On les trouve facilement sur Internet, parce que de plus en plus, moi aussi, je rafraîchis ma mémoire, parfois défaillante, en allant sur ce réseau social, parce que pour moi, le seul réseau social qui vaille, c'est cette anthologie et encyclopédie des temps modernes, qui est depuis qu'elle est fiable, hein, parce qu'il fut tout un temps où il y avait beaucoup de conneries. Wikipédia, voilà. Donc, au Luxembourg, il rentre en France, muni d'un recueil de poèmes qui s'intitule « L'année terrible ». Voilà. Donc, dans l'un de ses poèmes, qui s'appelle « À ceux qu'on foule aux pieds », il dénonce avec véhémence donc la misère. On l'écoute, on le lit. Voilà. À ceux qu'on foule aux pieds. Je trouve ça tellement... Il est extraordinaire, ce poème. Alors, je vais me rapprocher de mon écran, parce que de là, j'y vois pas grand-chose. Et c'est pas bien. Hop, ça fait du bruit. Ah, bah tant pis. Oh. Alors ça commence comme ça. À ceux qu'on foule aux pieds. Oh, je suis avec vous. J'ai cette sombre joie. Ce qu'on accable, ce qu'on frappe et qu'on foudroie m'attire. Je me sens leur frère. Je défends, terrassé, ce que j'ai combattu triomphant. Je veux, car ce qui fait la nuit sur tous m'éclaire, oublier leur injure, oublier leur colère. Et de quel nom de haine Ils m'appelaient entre eux. Je n'ai plus d'ennemis quand ils sont malheureux. Mais surtout, c'est le peuple attendant son salaire. Le peuple qui parfois devient impopulaire. C'est lui, famille triste, homme, femme, enfant, droit, avenir, travaux, douleur que je défends. Je défends l'égaré, le faible et cette foule qui, n'ayant jamais eu de point d'appui, s'écroule et tombe folle au fond des noirs événements. Étant les ignorants, ils sont les incléments. Hélas, combien de temps faudra-t-il vous redire à vous tous que c'était à vous de les conduire, qu'il fallait leur donner leur part de la cité, que votre aveuglement produit leur cécité. D'une tutelle avare, on recueille les suites, et le mal qu'ils vous font, c'est vous qui le leur fites. Vous ne les avez pas guidés, pris par la main, et renseignés sur l'ombre et sur le vrai chemin. Vous les avez laissés en proie au labyrinthe. Ils sont votre épouvante, et vous êtes leur crainte. C'est qu'ils n'ont pas senti votre fraternité. Ils errent. L'instinct bon se nourrit de clarté. Ils n'ont rien dont leur âme obscure se repaisse. Ils cherchent des lueurs dans la nuit plus épaisse et plus morne là-haut que les branches des bois. Pas un phare. À tâtons en détresse aux abois, comment peut-il penser celui qui ne peut vivre ? En tournant dans un cercle horrible, on devient ivre. La misère, âpre roue, étourdie. Je ne sais pas. Et c'est pourquoi j'ai pris la résolution de demander pour tous le pain et la lumière. Ce n'est pas le canon du noir vendémiaire, ni les boulets de juin, ni les bombes de mai qui font la haine éteinte et l'ulcère fermé. Moi, pour aider le peuple à résoudre un problème, je me penche vers lui. Commencement, je l'aime. Le reste vient après. Oui, je suis avec vous. J'ai l'obstination farouche d'être doux. Ô vaincu, et je dis non, pas de représailles. Ô mon vieux cœur pensif, jamais tu ne tressailles mieux que sur l'homme en pleurs. Et toujours tu vibras pour des mères ayant leurs enfants dans les bras. Quand je pense qu'on a tué des femmes grosses, qu'on a vu le matin des mains sortir des fosses. Oh pitié, quand je pense à ceux qui vont partir, ne disons pas « je fus proscrit, je fus martyr ». Ne parlons pas de nous devant ces deuils terribles, de toutes les douleurs ils traversent les cribles. Ils sont vannés du vent qui les emporte et vont dans on ne sait quelle ambre au fond du ciel profond. Où, qui le sait, leurs bras vers nous en vain se dressent. Oh, ces pontons sur qui j'ai puré reparaissent avec leurs entrepons où l'on expire, ayant sur soi l'énormité du navire fuyant. On ne peut se lever debout, le plancher tremble, on mange avec les doigts du baquet tous ensemble, on boit l'un après l'autre au bidon, on a chaud. On a froid, l'ouragan tourmente le cachot, l'eau gronde, et l'on ne voit, parmi ces bruits funèbres, qu'un canon allongeant son cou dans les ténèbres. Je retombe en ce deuil qui jadis m'étouffait, personne n'est méchant, et que de mal on fait. Combien d'êtres humains frissonnent à cette heure, sur la mer qui sanglote et sous le ciel qui pleure, devant l'escarpement hideux de l'inconnu, être jeté là, triste, inquiet, tremblant, nu, chiffre quelconque au fond d'une foule livide, dans la brume, l'orage et les flots, dans le vide, pêle-mêle et tout seul, sans espoir, sans secours, ayant au cours le fil brisé de ses amours. Dire « Où suis-je ? » On s'en va. Tout pâlit, tout se creuse, tout meurt. Qu'est-ce que c'est que cette lutte affreuse ? La terre disparaît, le monde disparaît. Toute immensité devient une forêt. Je suis de la nuée, de la cendre, on passe. Personne ne va plus penser à moi. l'espace, le gouffre. Où sont-ils ceux près de qui je donnais ? Où sont-ils ceux près de qui je dormais ? Se sentir oublié dans la nuit pour jamais, devenir pour soi-même une espèce de songe. Oh, combien d'innocents, sous quelques vils mensonges et sous le châtiment féroce stupéfait. Quoi, disent-ils, ce ciel où je me réchauffe, je ne verrai plus. On me prend la patrie. Rendez-moi mon pays, rendez-moi mon foyer, mon champ, mon industrie, ma femme, mes enfants, rendez-moi la clarté. Qu'ai-je donc fait pour être ainsi précipité dans la tempête infâme et dans l'écume amère, et pour n'avoir plus droit à la France, ma mère ? Quoi ? Lorsqu'il s'agirait de sonder, ô vainqueur, l'obscur puits social béant au fond des cours, d'étudier le mal, de trouver le remède, de chercher quelque part le levier d'Archimède, lorsqu'il faudrait forger la clé des temps nouveaux, après tant de combats, après tant de travaux, et tant de fiers essais, et tant d'efforts célèbres, quoi, pour solution, faire dans les ténèbres, nous. Guides et docteurs, nous les frères aînés, naufragés, un chaos d'hommes infortunés, décrétés qu'on mettra dehors qui ? Le mystère, que désormais l'énigme à l'ordre de se taire, et que le sphinx fera pénitence à genoux. Quels vieillards sommes-nous ? Quels enfants sommes-nous ? Quels rêves, hommes d'État ? Quels songes aux philosophes ? Quoi ? Pour que les griefs, pour que les catastrophes, les problèmes, l'angoisse et les convulsions s'en aillent, suffit-il que nous les expulsions ? Rentrer chez soi, crier « Français, je suis ministre et tout est bien !» Tandis qu'à l'horizon sinistre, sous des nuages lourds, hagards, couleur de sang, chargés de spectres, noirs, dans les flots décroissants, avec l'enfer pour aube et la mort pour pilote, on ne sait quel radeau de la méduse flotte. Quoi ? Les destins sont clos, disparus, accomplis, avec ce que la vague emporte dans ses plis. Ouvrir à deux battants la porte de l'abîme, y pousser au hasard l'innocence et le crime, tout le mal et le bien, confusément punis. Refermer l'océan et dire « c'est fini ». Être des hommes froids, à qui jamais ne s'émoussent, qui n'attendrissent point leur justice et qui poussent l'impartialité jusqu'à tout châtier. Pour le guérir, couper le membre tout entier. Quoi ? Pour expédient, prendre la mer profonde ? Au lieu d'être ceux-là par qui l'ordre se fonde, jetés au gouffre, en tas les faits, les questions, les deuils que nous pleurions et que nous attestions, la vérité, l'erreur, les hommes téméraires, les femmes qui suivaient leurs mains ou leurs frères, l'enfant qui remua follement le pavé, et faire signe au vent, et croire tout sauvé, parce que sous nos maux, nos pleurs, nos inclémences, on a fait travailler ces balayeurs immenses. Eh bien, que voulez-vous que je vous dise, moi ? Vous avez tort, j'entends les cris, je vois l'effroi, l'horreur, le sang, la mer, les fosses, les mitrailles. Je blâme. Est-ce ma faute, enfin ? J'ai des entrailles, éternel Dieu. C'est donc au mal que nous allons ? Ah, pourquoi déchaîner de si durs aquilons sur tant d'aveuglement et sur tant d'indigence ? Je frémis, sans compter que toutes ces vengeances, c'est l'avenir qu'on rend d'avance furieux. Travailler pour le pire en faisant pour le mieux, finir tout de façon qu'un jour tout recommence. Nous appelons sagesse, hélas, cette démence, flux, reflux, la souffrance et la haine sont courts, sont sourds. Les opprimés refont plus tard des oppresseurs. Oh, dussé-je coupable aussi, moi, d'innocence, reprendre l'habitude austère de l'absence ? Dû se refermer l'âpre et morne isolement, dussent les cieux que l'aube a blanchi un moment redevenir sur moi dans l'ombre inexorable, que du moins un ami vous reste, ô misérable, que du moins il vous reste une voix, que du moins vous nous ayez la nuit et moi pour vos témoins. Le droit meurt, l'espoir tombe et la prudence est folle, il ne sera pas dit. Que pas une parole n'a devant cette éclipse affreuse protesté. Je suis le compagnon de la calamité, je veux être, je prends cette part la meilleure, celui qui n'a jamais fait le mal et qui pleure. l'homme des accablés et des abandonnés. Volontairement, j'entre en votre enfer damné. Vos chefs vous égaraient, je les dis à l'histoire. Excusez-moi, une fausse liaison. Certes, je n'aurais pas été de la victoire, mais je suis de la chute. Je viens grave et seul, non vers votre drapeau, mais vers votre linceul. Je m'ouvre votre tombe. Et maintenant, huée, toi, calomnié, toi, haine, toi, calomnie, et toi, haine, prostituée, ô sarcasme payé, mensonge gratuit, qu'à Voltaire ont lancé Nonote et Maupertuis, point montré qui jadis châssit Rousseau de Bienne, cri plus noir que les vents de l'ombre libyenne, plus vil que le fouet sombre aux lanières de cuir qui forçait le cercueil de Molière à s'enfuir. Ironie idiote, anathème farouche, ô reste de salive encore blanchâtre aux bouches qui crachèrent au fond du pâle Jésus-Christ, pierre éternellement jetée à tout proscrit. Acharnez-vous, soyez les bienvenus, outrage, c'est pour vous obtenir, injure, fureur, rage, que nous les combattants du peuple nous souffrons, la gloire la plus haute étant faite d'affront. Voilà, donc Victor Hugo, l'année terrible, c'est l'année 1871, voilà. Et bon, je dis ça comme ça, c'est parce qu'il y a des fois aussi où moi je me sens foulé aux pieds. Alors ça m'a renvoyé vers une autre chanson qui est merveilleuse et qui est née d'un poème de Jacques Prévert. Je ne sais plus par qui elle est mise en chanson, mais en tout cas elle est chantée ou récitée. Par Serge Reggiani, l'effort humain.
L'effort humain n'est pas ce beau jeune homme souriant, debout sur sa jambe de plâtre ou de pierre, et donnant, grâce aux puérils artifices du statuaire, l'imbécile illusion de la joie, de la danse et de la jubilation, évoquant avec l'autre jambe en l'air la douceur du retour à la maison. Non. L'effort humain ne porte pas un petit enfant sur l'épaule droite, un autre sur la tête et un troisième sur l'épaule gauche avec les outils en bandoulière et la jeune femme heureuse accrochée à son bras. L'effort humain porte un bandage hernière et les cicatrices des combats livrés par la classe ouvrière contre un monde absurde et sans loi. L'effort humain n'a pas de vraie maison. Il sent l'odeur de son travail. Et il est touché aux poumons. Son salaire est maigre. Ses enfants aussi. Il travaille comme un nègre et le nègre travaille comme lui. L'effort humain n'a pas de savoir-vivre. L'effort humain n'a pas l'âge de raison. L'effort humain a l'âge des casernes, l'âge des bagnes et des prisons, l'âge des églises et des usines, l'âge des canons. Et lui qui a planté partout toutes les vignes et accordé tous les violons, il se nourrit de mauvais rêves et il se saoule avec le mauvais vin de la résignation. Et comme un grand écureuil ivre sans arrêt, il tourne en rond dans un univers hostile, poussiéreux et bas de plafond. Et il forge sans cesse la chaîne, la terrifiante chaîne où tout s'enchaîne. La misère, le profit, le travail, la tuerie, la tristesse, le malheur, l'insomnie et l'ennui. La terrifiante chaîne d'or, de charbon, de fer et d'acier, de mâche-fer et de poussière passée autour du cou d'un monde désemparé. La misérable chaîne où viennent s'accrocher les breloques divines, les reliques sacrées, les croix d'honneur, les croix gammées, les ouistiti porte-bonheur, les médailles des vieux serviteurs, les colifichets du malheur et la grande pièce de musée, le grand portrait équestre, le grand portrait en pied, le grand portrait de face, de profil, à cloche-pied, le grand portrait doré, le grand portrait du grand divinateur, le grand portrait du grand empereur, le grand portrait du grand penseur, du grand sauteur, du grand moralisateur, du digne triste farceur, la tête du grand emmerdeur, la tête de l'agressif pacificateur, la tête policière du grand libérateur, la tête d'Adolf Hitler, la tête de Monsieur Thiers, la tête du dictateur, la tête du
fossoyeur. La femme, pourquoi ils me l'ont coupé juste avant la fin? C'est vraiment des enfoirés. Bon, donc bon, c'est donc l'effort humain. Et il manque un verre là dans l'affaire. Et je vais le chercher et je vais vous le passer maintenant tout de suite parce qu'il n'y a pas de raison de se priver. Je ne sais pas comment j'ai fait mon affaire. Je vous avoue, j'ai choisi une version qui n'était pas complète. Et donc ça ne pardonne pas ça, hein, évidemment. Alors, on y va. Allez, ça va repartir.
La tête odieuse, la tête malheureuse, la tête à claque, la tête à massacre, la tête de la peur.
Et voilà. Cette fois-ci, ça le fait. D'accord ? Non, si vous n'aimez pas ça, je suis désolé pour la coupure. C'est parce qu'ils nous ont fait une grosse merde dans une des versions qui est proposée sur Internet. J'y peux rien. Hein, c'est la vie. Elle est comme ça. Des fois, ça déçoit. J'aurais dû vérifier avant d'envoyer. Alors, j'ai trouvé un bouquin de Thierry Jonquet, qui est un brave garçon, qui est né en 54, grand auteur du roman noir français. Il est entre autres l'auteur, pour ceux qui les ont lus, de Migale, des Orpailleurs, de Moloch, ça aussi, Moloch c'est un vrai monument, Ad Vitam Aeternam, et de Mon Vieux. Il a aussi écrit un truc contre l'abbé Pierre en le travestissant en méchant pédophile. Et je ne me rappelle plus du titre, c'est paru dans les collections Adibal à l'époque, hein, les folios noir et jaune. Et je ne sais plus où je l'ai fourré. Mais je n'ai pas cherché là ce matin. Donc là, j'ai choisi, et donc vous l'avez compris, ils sont votre épouvante et vous êtes leur crainte. C'est l'histoire d'une institutrice plongée dans une zone industrielle pour un premier poste en collège. Donc elle va tout vivre. Je vais juste vous lire quelques extraits, histoire de vous donner envie. Donc là, elle arrive, elle débarque, elle est toute jeunette, la première fois qu'elle enseigne. Anna avait donc décidé de procéder à un petit repérage le 31 août, à la veille de la pré-rentrée de septembre 2005, la première de sa carrière d'enseignante, un mercredi, afin de ne pas débarquer en terrain inconnu à l'heure fatidique. Trois semaines auparavant, elle avait reçu un courrier du rectorat l'informant de son affectation, le collège Pierre de Ronsard à Certigny dans le 9-3. À 10h30, Loïc, un copain de l'IUFM, passa la prendre au bas de son immeuble, sur les hauteurs de la rue de Belleville. ça carillonnait à l'église du Jourdain. Des fidèles se rassemblaient déjà pour une messe d'enterrement, s'agglutinant en un maigre troupeau, tandis qu'une kyrielle de SDF tendait leurs sébiles sur le parvis, certains de rafler la mise. La faune de la cloche, pas fraternelle pour un sou, faisait la chasse aux nouveaux venus qui s'aventuraient dans les parages, prêtes à virer les resquilleurs. Loïc l'attendait, garé en double file au volant d'une Clio à la carrosserie cabossée. Anna avait enfilé un jean, un t-shirt, noué un bandana autour de ses cheveux, chaussé des baskets avachies, et en avant toute vers la Terra Incognita, Certigny, commune de 60 000 habitants. Elle n'avait pas le permis, encore moins les moyens de s'offrir une voiture dans un avenir proche. Le studio où elle avait installé ses pénates appartenait à une tante qui le lui cédait moyennant un loyer raisonnable. Et avec les 1300 euros qui lui étaient octroyés en guise de salaire, c'était déjà miraculeux de pouvoir se loger dans Paris intramuros et non dans une lointaine banlieue comme tant de ses copains de l'IUFM. Pilote à copilote, claironna Loïc, cap sur la porte de Pantin. Après, tu me guides. Elle étudia le plan qu'elle avait sorti de la boîte à gants. Il fallait prendre un bout du périph, filer sur la Nationale 3 en direction de Livry-Gargan et obliquer sur la gauche un peu après, vers Sevran et Certigny. Plus précisément, le quartier des Bleuets, sa cité scolaire qui regroupait presque 1500 élèves avec son collège et son lycée professionnel. Dès le lendemain, elle devra emprunter le RER à Gare du Nord, descendre à la station Sevran-Baudotte, puis monter à bord d'un bus, le 316C, qui après un trajet d'une vingtaine de minutes la laisserait devant l'entrée du collège Pierre de Ronsard, lieu de son sacerdoce. Tant et si bien que pour arriver au cours à 8h, elle devrait se lever à 6. Comme une vaillante petite prolétaire, avait précisé Loïc. Lui-même n'était pas mieux loti, logé à Paris chez ses parents, mais avait été affecté au fin fond du 9-4, en bordure de la Seine-et-Marne, quasiment chez les ruraux. « On n'est pas les plus malheureux, assura-t-il en s'engageant sur le périph. Dis-toi bien que ma sœur s'est tapée 3 ans dans une école de commerce qui coûtait la peau du cul et total, elle se retrouve en stage dans un hypermarché à contrôler la distribution des yaourts. » En stage, avec à peine le RMI, tu vois. « J'attends qu'elle dégage pour prendre la piole de bonne qui appartient à mes vieux, et c'est pas demain la veille que ça arrivera. » Nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus. La circulation étant assez fluide, à 7h de la matinée, ils arrivèrent à Certigny en moins d'une demi-heure. Le vieux village, avec son église délabrée, sa rue commerçante anémique et sa mairie à la façade envahie de lierre, semblait avoir été terrassé à la suite d'un blitzkrieg. Les bars HLM, longs comme un jour sans pain, touchaient presque le presbytère désaffecté depuis belle lurette. En bordure de l'échangeur de l'autoroute toute proche, la zone industrielle regroupait quantité d'entrepôts et de magasins aux enseignes chatoyantes, salons tout cuir, Midas, le roi Merlin, Truffaut, et planté au beau milieu avec sa toiture en imitation de chaume, un buffalo grill, un jardinet orné d'un bison en polyuréthane. La ville de Certigny est depuis la nuit des temps, l'an 36 du siècle précédent, gérée par une équipe municipale communiste. Aussi, les noms des rues et des avenues en portaient les stigmates. Boulevard Marcel Cachin, carrefour Auguste Blanchy, avenue Maurice Thorez et tutti quanti. La cerise sur le gâteau revenait à une certaine place Lénine où s'épanouissait la carcasse en béton de la médiathèque, dont la silhouette évoquait l'étrave d'un paquebot, sans doute en guise d'invitation au voyage. La lecture, source d'évasion, proclamait d'ailleurs un calicot aux teintes défraîchies et dont la toile claquait au vent. Tout près, un panneau de co juché sur un terre-plein garni de fleurs annonçait, via le défilé répétitif des lettres sur son cadran électronique, une prochaine semaine de solidarité avec la résistance palestinienne, à l'initiative de la municipalité, ainsi qu'un festival de musique folklorique latino-américaine avec notamment une troupe originaire du Chiapas. On y est, murmura Loïc en montrant le carrefour suivant. esplanade des Bleuets, où se tenait un marché. Il se gara derrière une camionnette à auvent, à l'abri duquel un moustachu s'époumonnait et gonflait des ballons. Il leur donnait des formes d'animaux en les tordant dans tous les sens selon son inspiration, girafes, souris, teckels, et autres Mickey aux oreilles démesurées qu'il tendait aux enfants épatés par sa dextérité, tandis que sa comparse, une solide blonde aux joues cramoisies, encaissait la monnaie en échange de rations de barbe à papa et de chamallows. La cité scolaire Pierre de Ronsard était située juste derrière l'esplanade et entourée d'un petit bois de platanes et de marronniers, dont quelques bogues précoces commençaient à parsemer le bitume. Le vent chassait les premières feuilles flétries. La cité scolaire Pierre de Ronsard, protégée par des grilles évidemment, une vingtaine de cubes en béton gris de 3 étages, déjà rongés par la moisissure qui marbrait les façades de taches jaunâtres. Voilà tout ce qu'il y avait à découvrir. Anna haussa les épaules, c'était laid, infiniment triste, mais il faudrait faire avec. D'ailleurs, il y avait pire, elle le savait bien, il en avait tant vu durant ses visites sur le terrain de ces blocs d'acier et de verre qui n'en finissaient plus de rouiller sur pied. Rongée par une sorte de maladie sournoise, une lèpre jaillie du bitume de ces collèges vermoulus aux salles affligées d'une acoustique lamentable. Et que dire des algécos, guère plus fringants où l'on entassait les apprenants par troupeaux de 30 à se geler en hiver et à transpirer plus que de raison quand le soleil s'amusait à cogner sur les toits de tôle dès le mois de mai. Des cages à gosses, déjà condamnées à tourner en rond dans leur réduit, une matière de zoo scolaire, rien de plus. À bien y regarder, la cité Pierre de Ronsard de Certigny n'était pas la plus mal lotie. Eh ben dis donc, ça promet. Hein. Voilà l'installation de cette enseignante. On va encore écouter une chanson qui fait écho à la précédente. Ça nous change. Et vous allez voir qu'on y retrouve la figure du dictateur. Merci à toi, Bernard Lavilliers, si inspiré. Je vous passerai aussi une autre chanson de lui. Parce que là, j'en ai découvert une nouvelle que je veux absolument que vous écoutiez. Quand tu veux.
J'entends le cœur du monde battre de plus en plus fort, celui des multitudes et de la solitude. Je croise de plus en plus la haine, la peur, la mort, c'est presque une attitude, ça devient l'habitude. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, allant viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés, sur ses désirs brûlés. La tête du dictateur, la tête du fusilleur, toujours en embuscade dans les rues de Bagdad. Si la démocratie peut tomber en 10 heures, si les banques surnagent attendant le naufrage, alors nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme. Tu ne pourras plus faire demi-tour, enchaîner, 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 enchaîner. Après la guerre, on est dans l'entre-deux. On attend la prochaine, la dernière, la certaine. La guerre économique, au fond, c'est pas sérieux. Faudra bien que ça saigne des milliards, des centaines. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs. Alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés. Sur ses désirs brûlés.
Cœur du monde, donc on revient sur la figure du dictateur et du fusilleur, voilà, et du grand moralisateur. Aurait-il dû encore ajouter, puisque ils prétendent tous détenir la vérité sur notre morale. Un autre extrait de, hein, je vous mets dans le bain, hein, carrément. Hein, de ce bouquin de Thierry Jonquet. Ils sont votre épouvante et vous êtes leur crainte, avec l'aventure improbable de cette enseignante au milieu de, vous allez dire, de jeunes adolescents qui sont comme tous les adolescents, hein, intenables, irrésistibles à la fois. Et puis, voilà. Alors, écoutez ça. L'Agdar, fatigué après sa journée de rentrée scolaire, c'est un des personnages principaux, hein, ne put retenir un bâillement. D'ailleurs, il va lui arriver des trucs, c'est pas triste. Et Tamin lui demanda affectueusement Slimane, j'ai rendez-vous avec un chirurgien à l'hôpital Trousseau, carrément à Paris, sérieux. Il va m'opérer et après, ça ira bien. Tant mieux, tant mieux. Dis-moi, tu veux que je te prête une cassette? Tu pourras la regarder, c'est vraiment très instructif. L'Agdar fronça les sourcils. Des emmerdes avec les DVD, il en avait déjà eu assez comme ça. Slimane était au courant de toute l'affaire et éclata de rire. Non, cette fois, il n'y avait rien à craindre. Rassure-toi, dit-il, il n'y a rien d'illicite. C'est un film, un feuilleton télé de nos frères libanais et le Hezbollah. Tu as déjà entendu parler? L'Agdar confirma. La télé, les flashs d'infos, on voyait les combattants défiler en rang serré, en piétinant ou en brûlant le drapeau. Oui, le drapeau de l'entité sioniste, le drapeau juif, l'Agdar. Regarde et après tu me diras ce que tu en as pensé. Ah, fais attention, ne parle pas à ton père. Tu regarderas la cassette quand il saura son travail, d'accord? L'Agdar s'étonna. Pourquoi ne pas en parler à son père? Slimane hésita un long moment avant de répondre. D'après ce que je sais, ton père n'est pas vraiment un bon musulman, l'Agdar. Ce n'est pas de ta faute à toi, tu n'y es pour rien. Mais enfin, mieux vaut que ça reste entre nous. L'Agdar s'empourpra. Son père, un mauvais musulman, il allait souvent à la mosquée, pas toutes les semaines, c'est vrai, mais il suivait scrupuleusement le jeûne du Ramadan. Même si ça n'était pas facile avec son travail chez les fous, à Charcot, surtout en été, quand il faisait chaud, toute la journée à passer la balayeuse automatique dans les couloirs, du matin au soir, sans rien manger, sans rien boire. La cousine Zora, elle, la religion, elle s'en foutait. Dans son salon de coiffure, elle portait même une blouse transparente, super limite, et quand elle passait en pleine lumière, on voyait bien son soutien-gorge et sa culotte à travers. Des trucs tout noirs avec de la dentelle. L'Agdar, la dernière fois qu'il était allé chez elle, il s'était senti tout drôle à la regarder comme ça. La cousine Zora, elle était vraiment belle, et quand elle lui passait la main dans les cheveux, il ne pouvait réprimer un petit frisson en essayant de ne pas trop penser au DVD de Jamel. Mais c'était pas facile. Elle l'embrassait sur le front, elle sentait bon avec tous ses parfums spéciaux de meuf, un peu comme Madame Doblinsky. C'était bien obligé les parfums avec les clientes, sinon autant le fermer tout de suite son salon de coiffure. Bon, fallait pas en faire toute une histoire quand même. Zora, elle faisait un peu comme les Français avec la religion, style Noël avec la bûche et la crèche, le sapin et tout le bazar, mais le reste du temps, elle s'en tapait. La fête de l'Aïd, ça oui, histoire de marquer le coup, mais le Ramadan, non, pas question de rester un mois complet à se priver, voilà ce qu'elle disait. Je ne voulais pas te blesser, reprit Slimane. Ce qu'on raconte un peu partout dans la cité, c'est simplement que parfois, ton père se laisse un peu aller. Il boit un peu de bouca avec ses copains, concéda l'Agda honteux. Heureusement, ni Samir ni sa bande, ni Slimane n'étaient au courant de la façon dont s'habillait Zora. Sinon, ça aurait encore fait des salades. Il n'y a pas que ça, l'Agda, il n'y a pas que ça. Quoi d'autre alors? On en reparlera une autre fois, je t'assure. T'en fais pas, ça reste entre nous. Allez, maintenant il faut que tu me laisses. Le soir, j'ai du travail. Tiens, prends la cassette et ne la prête à personne. Slimane s'était levé, avait tendu le bras vers une pile de boîtiers VHS et en avait confié une au jeune garçon. Celui-ci quitta le studio sans s'ajouter un mot et quelques instants plus tard se retrouva au pied de l'immeuble. Et oui, donc il y a un nid de salafistes, évidemment. Et comme dans tous les endroits abandonnés par la République et pas... au contraire, abandonnant la République, non. C'est eux qui sont laissés de côté, stigmatisés. Ça, c'est moi qui dis. J'y reviens. Allez, encore un coup de Thierry Jonquet. Les copains qui goûtaient du rap étaient toujours regroupés autour de leur ghetto blaster, branchés à fond la caisse. C'est là qu'il aurait fallu que je mette un son en arrière, parce que je vais lire le rap. Et je ne sais pas comment ça va donner, mais il est excellent, décidément, ce Thierry Jonquet. Ça fait peur quand tu sais que ta femme te trompe et qu'au bout du compte, tu dois te servir d'une pompe, briser les liens du mariage. Ça fait peur quand ça sent la bouteille de gaz, quand tes potes se te gazent ou ton patron te dégage, là où ça coupe des gorges, là où ça s'engage, là où les blocs se forgent avec la rage. Ça fait peur de mettre le nez dans la coque ou se manger un coup de lame dans les côtes. Peur, peur, comme une chaîne qui tombe en cloque.